n'ai pas envie que mes trois filles grandissent dans une ou des églises façonnées par cette pensée. Et pour moi, ça a été de nouveau une deuxième phase où alors là, je me suis vraiment plongé dans l'abondante littérature. Bon, on n'a jamais fait le tour, c'est très vaste, mais de manière encore plus approfondie, parce que je me suis dit, mais je respecte les avis des uns et des autres, mais à titre personnel, je ne supporte plus d'entendre ce genre de choses. Alors voilà, peut-être que les uns les autres peuvent partager cela, mais voilà, je le dis. Et ça m'a réintéressé de nouveau au sujet et à le creuser de nouveau, parce que quelqu'un qui a quand même beaucoup d'influence outre-Atlantique, mais aussi aujourd'hui en Europe et en France en particulier. Et après, en lisant d'autres choses qu'il a écrites, et je me dis, il faut que je comprenne les choses de manière plus approfondie. Donc, à titre personnel, c'est ce qui m'a un petit peu mon cheminement pour expliquer pourquoi je me suis intéressé à ce sujet. De se dire, mais finalement, est-ce que tout ce qu'on veut faire, c'est mettre un bâillon sur la bouche des femmes? Donc, outre ce témoignage personnel, c'est un sujet où il y a quand même un grand enjeu. L'enjeu, c'est aussi notre responsabilité collective, hommes et femmes, vis-à-vis des femmes qui ont des dons pour toutes sortes de ministères, et peut-être même certaines parfois se sentent appelées par le Seigneur à un ministère pastoral. Est-ce juste? C'est quand même plus de 50% souvent des églises, donc c'est quand même un sujet important, ça concerne plus de la moitié du corps de Christ. Donc, il y a un vrai enjeu. Il y a bien sûr le souci de fidélité à l'enseignement de la parole de Dieu. On veut en même temps être fidèle à ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. En même temps, nous vivons aussi une sorte d'écart, parfois grandissant, entre ce que nous vivons dans la sphère de tous les jours, de la vie de tous les jours, dans la sphère séculière, dans le monde du travail, la sphère politique, et parfois ce que nous vivons aussi à l'Église. Et cet écart grandissant, on peut très bien l'assumer en disant c'est parce qu'il y a d'un côté la fidélité à la parole et de l'autre côté le monde avec ses valeurs. Et ça, il n'y a pas de souci. Mais si ça n'est pas ça, ça devient problématique. Avec cette question qui se pose donc, mettons-nous inutilement des obstacles aussi au témoignage de l'Évangile? L'un des enjeux aussi pour moi, c'est un peu comme je l'ai souligné à travers l'exemple, malheureusement pas anecdotique, de John Piper, c'est aussi qu'on assiste aujourd'hui à un renouveau de l'opposition à la prédication féminine, au pastorat des femmes, c'est au sein du monde évangélique. On n'est pas du tout dans ce que peut-être on aurait pu penser, que peut-être les mentalités évoluent, etc. Non, pas du tout. En réalité, si on regarde les choses aujourd'hui, on est dans une résurgence d'une opposition plus virulente vis-à-vis du ministère féminin, que ce soit simplement dans l'enseignement, dans la prédication, et d'autant plus dans les rôles pastoraux. J'ajoute aussi à cela, j'assume ce que je considère comme une résurgence d'attitudes que je ne trouve pas d'autres mots pour les qualifier, de sexistes, recouverts de spiritualité. Je pense qu'il y a là un enjeu qui est multiple, mais qui me semble absolument pas anecdotique. Et il nous faut prendre cela au sérieux, à bras le corps, et essayer d'approfondir un sujet qui, il faut le dire encore, n'est pas facile. Voilà. Donc je ne viens pas en me disant que moi j'ai toutes les réponses, pas du tout, mais c'est un sujet sur lequel il mérite de s'arrêter et de pouvoir entrer en dialogue. Mais il me semble que tout n'est pas acceptable. Je précise aussi que là, dans mon intervention, c'est Patrice Assendor en tant que personne qui parle. Ça n'est pas le président de France Mission, même si j'ai conscience que voilà, il y a aussi cette casquette, mais je ne viens pas présenter la position de France Mission. La position de France Mission, elle est écrite dans les textes qui ont été d'ailleurs votés. Un texte a été voté à l'Assemblée générale l'année dernière, donc voilà, pour connaître comment l'Union en tant qu'Union fonctionne sur cette question-là, il faut se reporter au texte qui est le texte de consensus. Maintenant, les uns et les autres peuvent avoir à titre personnel une position peut-être un peu plus à droite, un peu plus à gauche. C'est aussi une certaine liberté, même si nous avons un consensus là pour voilà comment on va fonctionner au sein de l'Union. Donc je reprécise que je parle là à titre vraiment personnel. Et d'une manière, voilà, sans ambiguïté, avec un a priori, je dirais, très favorable aux différents types de ministères pour les femmes. Donc comme ça, vous pouvez faire votre correctif. Hein, vous entendez d'où je parle. Je ne vais pas dire que je parle d'ailleurs de là où je parle. Souvent, les critiques faites à ceux qui sont favorables à la prédication, à l'enseignement des femmes dans l'Assemblée, ou voire même à ceux qui seraient, je dirais, favorables à ce qu'il y ait des femmes pasteurs, il y a plusieurs critiques qui reviennent régulièrement. J'en mentionne quelques-unes. La première critique, c'est souvent de dire, en fait, ces personnes-là cèdent au féminisme ambiant. Voilà. C'est le monde d'aujourd'hui, c'est le féminisme, et donc on commence à céder finalement à la pensée ambiante. Ou alors, la deuxième chose aussi qui est souvent avancée, c'est que la position qui voudrait limiter, qui pense que voilà, la Bible ne permet pas que des femmes enseignent dans l'Assemblée, ne permet pas que des femmes soient pasteurs, c'est la position que l'Église a toujours eue, que les évangéliques ont toujours eue, ça c'est la position historique, donc vous innovez. Voilà. Et l'innovation, c'est toujours un peu suspect. Troisième élément, c'est que en militant ou en étant favorable à l'enseignement des femmes, voire au pastorat féminin, vous refusez le sens évident des textes. Voilà. Finalement, les textes sont, ils sont sans ambiguïté, ils sont clairs, vous refusez simplement le sens évident et littéral des textes. Donc c'est aussi quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Et puis, quatrième observation souvent faite, c'est les instructions de Paul ne doivent pas être limitées au contexte particulier des églises auxquelles il écrit. Vous voulez dire que voilà, ce que Paul écrivait, c'était vrai dans le contexte de l'époque et aujourd'hui, ça n'est plus vrai. Mais en fait, non, ce sont des commandements, en quelque sorte, qui sont ancrés dans l'ordre créationnel. C'est comme cela que Dieu lui-même a créé l'humanité homme-femme. Donc, voilà, vous passez à côté de cet aspect. Et donc, ce que j'essaierai de faire aujourd'hui, c'est peut-être trop ambitieux d'ailleurs, mais voilà, on va essayer de voir jusqu'où on peut aller en tout cas. C'est peut-être quatre choses. De montrer tout d'abord que loin d'être le fruit du féminisme ambiant, la position favorable à l'enseignement des femmes, elle précède d'ailleurs les mouvements féministes et elle est ancrée dans l'histoire des réveils évangéliques. Voilà. Donc ça c'est une chose que je vais essayer d'aller assez vite sur cette partie-là, mais c'est quand même très important parce que comme on vient tous avec des a priori en fait. On vient toujours avec un a priori. Personne ne vient vierge de tout a priori. Et on a besoin de savoir, en fait, comme cette pensée est très présente, il m'a semblé nécessaire de pouvoir dire quelques mots là-dessus. La deuxième chose, j'aimerais essayer de montrer qu'une herméneutique, ou en tout cas une façon de lire la Bible évangélique, milite en réalité plutôt en faveur d'une lecture positive, ouverte du Nouveau Testament, y compris des épîtres de Paul. La troisième chose, c'est de dire, d'essayer de montrer que les textes disputés sont difficiles. Et, malgré tout, se comprennent mieux dans une optique favorable à la parole des femmes et à l'enseignement des femmes. Donc, encore une fois, ce sont des textes difficiles, mais il me semble que leur lecture va plutôt dans un sens d'ouverture. Et la quatrième et dernière chose, j'espère que par cet exercice-là, qu'importe, je dirais, ce que vous allez en retirer comme opinion sur telle ou telle chose, vous stimulera à regarder la Bible aussi autrement. Voilà. Non pas comme un livre qu'on ouvre simplement pour savoir ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire, mais un livre qui nous introduit dans l'histoire du projet de rédemption de Dieu en Jésus-Christ et une histoire à laquelle nous sommes invités. Nous sommes invités d'y rentrer et de la vivre. Voilà. Donc je vais laisser plein de questions très intéressantes et importantes de côté, mais voilà, j'essaye de circonscrire déjà mon intervention cet après-midi et ce sera déjà assez vaste. Premier élément, de pouvoir nous arrêter un petit peu sur la perspective historique pour savoir aussi d'où nous venons. D'une manière générale, lorsqu'on étudie un sujet, quel qu'il soit, il est bon de savoir finalement comment ceux qui nous ont précédés ont vécu la chose. Nous ne sommes jamais les premiers. Même en théologie, on fait toujours la théologie sur les épaules de ceux qui nous ont précédés. Nos catégories de pensée, etc. Tout ça, c'est un héritage. Les gens, il y a 2 siècles, 3 siècles, 5 siècles, ne pensaient pas comme nous. Ils ne raisonnaient pas de la même manière, ils n'avaient pas les mêmes a priori. Donc, c'est toujours bien de savoir comment les choses se faisaient avant. Là, je vais me limiter simplement à comment ça se vivait. Et de souligner que nous sommes là devant quelque chose qui s'est fait au gré des réveils et de l'institutionnalisation de l'Église. Tout le monde est d'accord pour dire que dans l'histoire de l'Église, le leadership et l'enseignement a été très largement confié aux hommes, mais toutefois, il y a quand même une certaine divergence. Pour les uns, on souligne que le rôle d'autorité que les femmes ont parfois eu dans l'Église ou d'enseignants est un phénomène tout à fait exceptionnel, marginal, et que l'histoire, finalement, ne doit pas bien retenir grand-chose de cela, parce que, voilà, ça a été une fois comme ça, c'est tout à fait exceptionnel et marginal. Pour d'autres, au contraire, ils voient et soulignent que le rôle de certaines femmes dans l'histoire de l'Église, et là je vais me contenter de rester dans l'histoire du mouvement évangélique, ce sont des rôles qui ont été des précurseurs de ce qui se passe aussi aujourd'hui. Et de nombreux auteurs se sont posé la question de savoir non seulement pourquoi ce sont traditionnellement effectivement les hommes, bien sûr, qui ont les ministères publics, les ministères d'enseignement, etc. Mais surtout pourquoi y a-t-il eu régulièrement une sorte de résurgence du ministère public des femmes. C'est comme si périodiquement il y a comme une éclosion de ministères féminins. Pourquoi? Je vous livre une façon à laquelle j'adhère en grande partie, et plusieurs auteurs vont dans ce sens-là. Ce ne sont pas des changements dans les convictions bibliques qui ont présidé à ces résurgences et à ces disparitions, mais plutôt l'alternance de phases de réveil et d'institutionnalisation. Typiquement, vous avez, on pourrait dire, trois phases. Une première phase de réveil, et les femmes servent comme évangélistes, enseignantes, même implanteuses d'église. Une seconde phase où il y a une sorte de recherche de la respectabilité, et les femmes sont petit à petit marginalisées. Et puis une troisième phase d'institutionnalisation, où les femmes sont totalement exclues. Et on peut voir cela à plusieurs reprises dans l'histoire, même dans la courte histoire du mouvement évangélique. En quelque sorte, quand le leadership implique le choix charismatique par Dieu, de personnes à travers les dons de l'esprit qui répondent à une situation particulière, les femmes sont souvent incluses. Et le temps passant, plus on revient à une phase, on va dire, d'allure de croisière, ou on pourrait dire plus négativement d'institutionnalisation, mais je ne veux pas l'utiliser de manière négative, c'est une phase un peu naturelle, eh bien, on voit que la place des femmes diminue. Tout de suite après la réforme, dans ce qu'on a appelé la réforme radicale, et là je la mets surtout dans les pays anglo-saxons, dans les îles britanniques, on voit notamment dans deux groupes issus de l'aile de la réforme radicale, hein, il y a d'un côté la réforme qu'on appelle magistérielle, avec Luther, Zwingli, Calvin, voilà, hein, qui a donné les églises réformées, les églises luthériennes. Et puis, il y avait la réforme que parfois on appelle radicale, qui avait embrassé en grande partie les convictions des réformateurs, mais qui voulait aller plus loin, et notamment, parmi autres choses, il voulait la séparation stricte de l'Église et de l'État. Ils militaient pour des communautés, des églises de croyants. Et vous avez notamment deux groupes, donc dès la fin du XVIe siècle, les baptistes et les quakers, dans laquelle on voit déjà éclore des femmes qui prêchent. Chez les baptistes, là au milieu du XVIIe siècle, 1641, on trouve des traces de femmes dans les églises baptistes qui prêchent dans les années 30 et 40. Une de ces prédicatrices, mademoiselle Attaway, prêche à Londres, et d'abord elle prêchait uniquement à des femmes, mais petit à petit ces rencontres se sont ouvertes aussi à tous ceux qui voulaient venir, et beaucoup sont venus, parfois jusqu'à 1000 personnes se rassemblaient pour écouter les prédications de mademoiselle Attaway. On avait cela aussi donc aux Pays-Bas, en Angleterre, et puis un petit peu après déjà dans le Massachusetts, donc les premières colonies des Amériques. Chez les Quakers aussi, dans la pensée notamment des Quakers, parce que tout le monde est illuminé par l'Esprit Saint, eh bien, le ministère ne peut pas être simplement réservé aux hommes. Donc tous les amis, c'est comme ça que les Quakers s'appellent entre eux, friends, les amis, hommes ou femmes, peuvent se lever dans l'assemblée et donner une parole de la part du Seigneur. Hein, chez les Quakers, il n'y a pas un pasteur, un prédicateur qui lui apporte un message. C'est voilà, on est là et personne ne parle jusqu'à ce que quelqu'un se lève et dise un mot. Et ça peut être un homme ou une femme, qu'importe. Margaret Fell a été une des grandes figures du mouvement Quaker dès son départ, et elle est la première à avoir écrit un petit traité pour défendre le droit des femmes d'apporter la parole de Dieu. On peut en trouver sur Internet ce texte, c'est pas très long, où elle milite par rapport à la Bible, de dire, mais nous avons tous reçu le Saint-Esprit, et voilà pourquoi les femmes ne peuvent pas proclamer elles aussi l'Évangile. Et Margaret Fell va épouser à la fin de sa vie George Fox, qui est la première figure du mouvement Quaker, mais elle a eu une grande influence. Deuxième phase, dans le grand réveil du XVIIIe siècle. On connaît ce grand réveil, notamment avec des personnes comme John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards. Voilà, ce sont des grands hommes. C'est à ce moment-là, on peut dire que l'identité évangélique vraiment se cristallise avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Ben, tous les ingrédients sont là. Et il y a ce grand réveil qui va transformer vraiment la société anglaise et aussi les colonies américaines. Et on voit là, de nouveau, des femmes qui prêchent. Elles prêchent aux États-Unis. Quelqu'un comme Sarah Osborne, qui dans le Rhode Island, dans les années 1766-67, elle va conduire des cultes, elle va prêcher, et beaucoup de personnes vont venir écouter Sarah Osborne. Il y aura beaucoup de personnes qui vont se convertir. C'est vraiment un temps de réveil spirituel avec beaucoup de conversions. Et plusieurs femmes participent à cela. George Wesley lui-même, au départ, était relativement opposé à la prédication des femmes. Mais petit à petit, il a rencontré des femmes où, visiblement, le Seigneur les appelait à prêcher, et il a été amené, petit à petit, d'ailleurs, au début, il fallait être un ministre ordonné pour prêcher. Il fallait pas être un laïc. Petit à petit, il a vu que il avait plein de personnes, des laïcs, qui prêchaient très bien. Alors il s'est dit, moi, pourvu que l'Évangile se répande, donc il leur a demandé de prêcher. Et puis après, il a aussi demandé à des femmes de prêcher. Parmi elles, Sarah Crosby et Mary Fletcher. Mary Fletcher était une très très grande prédicatrice, elle prêchait parfois à des foules de plus de 2000 personnes, ce sont des femmes qui ont sillonné les îles anglaises. Sarah Crosby et Mary Fletcher, on dit que Sarah Crosby était en selle dès 5h du matin, et on pense qu'elle a parcouru plus de 1500 km en 1777 pour prêcher un peu partout, avec l'appui de Wesley. Malheureusement, donc ce grand réveil commence dans les années 1740 et puis s'arrête dans les années 1780, peu de temps après la mort de Wesley. Et déjà dès la fin des années 70, on voit que la prédication féminine commence à disparaître. De moins en moins d'opportunités sont laissées aux femmes pour prêcher. Il faudra attendre le second grand réveil, ce qu'on appelle le second grand réveil, 1790-1850, pour la voir de manière encore plus forte beaucoup de femmes qui prêchent, annoncent l'évangile et des gens qui se convertissent, et on compte plus d'une centaine, on retrouve là des traces de plus d'une centaine de femmes évangélistes, prédicatrices lors de ce second grand réveil. L'une des plus connues, Harriet Livermore, qui a été même invitée à prêcher au Congrès américain, et elle a prêché devant plus de 1000 personnes dans ce congrès, et le président lui-même n'avait pas trouvé de place, alors elle était assise sur les marches au pied de Harriet Livermore. Et elle a été invitée 4 fois à prêcher devant dans le hall du congrès américain. Dans ce second réveil, qui un des grands hommes du second réveil, c'est Charles Finney. Et Charles Finney a particulièrement encouragé les femmes dans leur ministère d'évangélistes, de prédicatrices, parce qu'il s'agissait d'amener le plus d'âmes au Seigneur. Donc, tout le monde était enrôlé. Hein, et il s'agissait de se dire, mais il faut aussi que les femmes prêchent. Et Charles Finney a contribué à la création d'une sorte d'institut biblique ou de faculté de théologie, Oberlin College. Et ça a été la première école supérieure ouverte à des femmes. Pour la première fois, des femmes pouvaient suivre des études de théologie. Et Antoinette Brown a été la première femme qui a été acceptée dans le cours qui formait les pasteurs. Et elle-même, bien qu'elle n'ait pas reçu son diplôme en même temps que les autres, parce que bon, elle peut venir en classe, mais bon, on peut pas. Et même si on lui donne le diplôme, on peut pas le donner devant tout le monde. Mais elle sera la première femme pasteur d'une église donc congrégationaliste après être diplômée en 1850. Et en 1853, donc, elle sera la première femme pasteur. C'est un pasteur méthodiste qui va parler, prêcher lors du culte de consécration de Madame Brown. Donc, on voit au cours du 19e siècle, chez les baptistes libres, chez les méthodistes, chez les quakers, chez tout ce mouvement qu'on a appelé de vie profonde, c'est des mouvements qui mettaient en avant la sanctification, la sainteté, le fait de vivre vraiment sous la direction de l'esprit, eh bien, on voit là éclore beaucoup de femmes qui prêchent. Qui servent comme évangélistes dans toutes sortes de lieux. Alors voilà, j'ai mis Sarah Crosby, Mary Thatcher, donc vous avez mentionné tout à l'heure. Voilà. Et dernière phase que je veux souligner, c'est le tournant du siècle, la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. On retrouve aussi, de manière étonnante, dans donc les mouvements de sainteté, le pentecôtisme, hein, où il y a aussi beaucoup de femmes qui prêchent, des femmes pasteurs. Le pentecôtisme, quasiment dès son début, a eu énormément de femmes prophétesses, prédicatrices et pasteurs. Les églises Foursquare, qui existent encore aujourd'hui, il y a quelques églises encore même en France, mais qui est une grande union d'églises au niveau international, a été fondée par une femme. L'armée du salut. Là aussi, où il y a les hommes et les femmes peuvent être avoir un rôle pastoral, Et donc, voilà une des familles d'église les plus où on voit le plus de femmes à l'œuvre. Ce qui est pour autant, et ça revient un peu à ce que je disais en introduction, on voit dans certaines de ces unions d'église où il y avait même pas mal de femmes qui étaient pasteurs au début du XXe siècle, un certain nombre de ces unions d'église ont beaucoup moins de femmes pasteurs aujourd'hui. Voilà. Donc, parfois, on a une vue de l'histoire faussée, en réalité. C'est le cas de des Églises de Dieu, Church of God, où il y avait énormément de femmes pasteurs jusque dans les années 20, et qui aujourd'hui, proportionnellement, ont beaucoup moins de femmes. L'église du Nazaréen, il y a aussi une ou deux églises en France qui sont issues de ce mouvement, avait jusqu'à 30% des femmes pasteurs, aujourd'hui c'est 5%. Chez les baptistes, on voit aussi beaucoup d'églises qui commencent à avoir des femmes pasteurs. Dans aussi ce qui est peut-être plus étonnant, en tout cas moi qui m'a étonné en me plongeant dans les livres d'histoire, c'est notamment dans le courant fondamentaliste. Courant fondamentaliste qui aujourd'hui c'est voilà, une femme qui prêche ou quoi que ce soit, c'est vraiment l'horreur absolue. Et bien au tournant du siècle, pas mal de leaders fondamentalistes étaient tout à fait favorables au ministère des femmes. Vous avez avec Dwight Moody qui a fondé l'Institut biblique Moody dans le nord des États-Unis, aujourd'hui un institut biblique relativement conservateur. Il n'y a pas de femmes qui vont là-bas pour être pasteur ou quoi que ce soit, ça risque pas. Eh bien, lorsque cet institut biblique a été fondé, à la fin des années 80, 1888 je crois, ils accueillaient aussi des femmes dans le cursus pastoral, et on retrouve dans leurs publications de l'époque comment ils donnaient les nouvelles de leurs anciennes étudiantes, qui l'une était évangéliste, l'autre était pasteur, et Moody encourageait les églises à inviter ces ministères. C'est impensable aujourd'hui. L'Institut biblique de Moody ne ferait pas ça. Mais au tournant du siècle, il le faisait. Et la plupart des écoles bibliques évangéliques qui ont été fondées à ce moment-là, qui étaient très conservatrices théologiquement, étaient totalement positifs, ouverts au ministère féminin. Donc il y a un livre qui s'appelle « No Time for Silence » qui retrace un petit peu l'histoire des premiers instituts bibliques et qui souligne cela. Et parmi les 6 premiers instituts bibliques, un seul était réfractaire au ministère des femmes. Voilà. Et plusieurs leaders du mouvement donc fondamentaliste étaient tout à fait ouverts. Nous avons aussi une Anglaise, Lewis Penn, qui a d'ailleurs écrit petit article sur Satan dans ces fameux livrets de Fundamentals, qui ont été la base un petit peu théologique des fondamentalistes et même de nous évangéliques au tournant qui a été publié autour de 1920, qui était une prédicatrice et qui a écrit d'ailleurs même un petit livre pour défendre le droit des femmes de porter l'évangile et de prêcher. Donc, voilà. Donc, en conclusion de cette première partie, j'ai voulu prendre le temps quand même de parler de cela, parce que nous avons bien souvent une vision un petit peu biaisée de la réalité et de se dire il ne s'agit pas simplement d'innovation lorsqu'on commence à parler du ministère féminin. Oh là là, là c'est, voilà, c'est parce que c'est le féminisme des années 60, 70 qui est passé par là. Pas du tout. C'est quelque chose qui est, j'ai envie de dire, consubstantiel à l'identité évangélique. Et ce sont les évangéliques les premiers qui ont ouvert la parole aux femmes avant les milieux séculiers et avant les églises libérales. D'ailleurs, c'est marrant parce que même en France, où il y a très très peu de femmes pasteurs dans les milieux évangéliques, mais la première femme pasteur en France, c'est Madame Blocher-Saïens, à l'église du Tabernacle, à la fin des années 20, qui a été la première femme pasteur en France. Une évangélique, même fondamentaliste. Voilà. Donc c'est... Alors, il n'y a pas eu de petit après, hein. Ça n'a pas fait, voilà. Hein. Mais je voulais commencer avec cela pour remettre dans une perspective, me semble-t-il, qu'on n'a pas très souvent. Bon, j'ai mis aussi, parce que c'est bien de voir les femmes, Harriet Livermore, donc, qui a prêché au Congrès, et puis Antoinette Brown, la toute première femme pasteur, dans les années 1853. Et puis, oui, j'ai pas mentionné Huldine, qui est une jeune fille de 14 ans, prédicatrice au début du XXe siècle, soutenue par des grands pontes du fondamentalisme de l'époque. Et Huldine a fait, entre autres, des campagnes d'évangélisation. À New York, plus de 10 000 personnes sont venues écouter cette jeune fille de 14 ans. Donc, c'est aussi intéressant de lire ce que le Seigneur a fait aussi à travers des femmes et parfois même de toutes jeunes femmes, soutenues et encouragées par de grands représentants du mouvement fondamentaliste dans les années 20. Ça va? On peut continuer? Alors, allons sur la perspective biblique. Une partie de ce que je vais dire, en tout cas le départ, vous pouvez trouver quelque chose de beaucoup plus complet, beaucoup plus élaboré. C'est un chapitre que Linda Hoyer a écrit, Lire Paul à la lumière de Jésus. Je pourrais vous donner la référence du livre à la fin. Donc je reprends en tout cas pour le début, pour la mise en perspective, un petit peu ce qu'elle développe. Les questions que nous abordons concernent plusieurs aspects de comment lire la parole de Dieu. Pour essayer de donner une réponse aux questions que nous nous posons, est-ce que les femmes peuvent prêcher, peuvent enseigner aux hommes et aux femmes, est-ce qu'une femme peut être pasteur, est-ce qu'une femme peut être ancien, etc. Il nous faut d'abord interpréter chaque texte biblique pertinent pour se dire mais que dit le texte. Mais il faut voir aussi la cohérence de l'ensemble des textes. Parce que quel que soit le sujet, vous pouvez prendre quasiment n'importe quel sujet biblique, vous ne trouverez pas, si vous voulez, que les choses vont toujours exactement dans le même sens partout dans la Bible. Quand calvinistes et arminiens se disputent de savoir, voilà, la prédestination, est-ce que c'est la prédestination, est-ce que Dieu a décidé qu'il va sauver, ou est-ce que Dieu a vu qu'il allait... Voilà. Vous trouvez des textes qui semblent aller dans un sens, et vous trouvez des textes qui semblent aller dans l'autre. Donc si on prend juste un texte, Non, il faut essayer de voir aussi ben, qu'est-ce que, dans son ensemble, la parole de Dieu semble nous dire. Et s'il faut regarder le texte précisément, il faut aussi regarder l'ensemble qui nous resitue aussi tel et tel texte. Et puis, enfin, il y a une troisième question qu'il faut se poser, étant donné l'écart culturel aussi entre l'époque de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament et la nôtre, comment appliquer et mettre en pratique ces textes dans notre situation actuelle. Il est possible d'être en accord sur l'interprétation de certains textes et être en désaccord quant à leur pertinence pour notre situation aujourd'hui ou quant à la manière de les mettre en application. Et il faut le reconnaître, à un moment donné, chacun limite certaines injonctions bibliques en faisant appel au contexte culturel. Ceux qui prônent, par exemple, une limitation du rôle de la femme basée sur, par exemple, un ordre hiérarchique en 1 Corinthiens 11, l'homme est la tête ou le chef de la femme, ils n'appliquent pas nécessairement l'injonction qui est dans le même texte que les femmes mettent un voile. Donc il y a bien un moment où chacun dit « Oui, mais ça, dans notre contexte aujourd'hui, on ne peut pas l'appliquer. » Alors, on ne va pas faire ici une exégèse détaillée de chaque verset pertinent, mais on va se concentrer sur, essayer aussi de voir finalement les grilles de lecture sous-jacentes à chaque position. Ce que ces grilles nous indiquent sur la compréhension que chacun a de la nature de la Bible. Et c'est un petit peu, chacun vient avec une grille, comme dans le débat avec les calvinistes et les arméniens. Bon, ben, chacun a un peu une grille, une façon de comprendre la Bible globalement, et il y a certains textes, ben, à cause de la manière dont il lit la Bible globalement, qu'il interprète d'une manière. Donc, il nous faut reconnaître... Oups, je suis allé peut-être un peu trop vite. Oui. Il nous faut reconnaître la dissonance des textes. Hein. Donc, même une lecture rapide à la surface de la Bible montre que les textes... les textes ne parlent pas sur la question du ministère féminin d'une même voix. Ce serait évidemment plus facile d'arriver à une conclusion si, par exemple, dans l'Ancien Testament, les textes étaient contre le ministère des femmes, dans le Nouveau étaient pour. Bon, ben là, c'est facile, on se dit, voilà, il y avait l'Ancien et puis là, le Nouveau. Mais bon, c'est plus compliqué que ça. Dans l'Ancien Testament, la situation est aussi, elle n'est pas si univoque que cela. Dans l'Ancien Testament, si quelqu'un peut m'apporter un petit verre d'eau, merci. Dans l'Ancien Testament, la femme est sous l'autorité d'un homme, soit son père, soit son frère, soit son mari. Et certains textes de la loi de l'Ancien Testament semblent même mettre la femme dans la liste des possessions de son mari. Il y a des inégalités au niveau de l'héritage, du divorce. Le tarif, par exemple, pour le rachat d'un vœu est moins onéreux pour une femme que pour un homme. On a l'impression que la valeur de la personne est moindre. L'infertilité, par exemple, est toujours de la faute des femmes. Seules les femmes semblent être stériles dans l'Ancien Testament. Et pourtant, même dans ce contexte patriarcal, un autre fonctionnement se fait jour aussi de temps à autre. Il arrive que Dieu... il arrive que Dieu appelle une femme comme juge en Israël, Déborah, une prophétesse qui communique la volonté de Dieu à son peuple et en tant que juge rend les verdicts lors de litiges. Autre exemple, Dieu a aussi appelé une femme, Hulda, comme prophétesse, consultée même par le roi, malgré le fait que, à cette même époque, il y a le prophète Jérémie. Même si Dieu appelle Jérémie, mais il appelle aussi Hulda comme prophétesse, et parfois c'est elle qu'on va consulter. Dans le Nouveau Testament, les arguments pour ou contre une égalité quant au ministère dans l'Église entre l'homme et la femme tournent souvent autour des écrits attribués à l'apôtre Paul. Et même là, pour les écrits de Paul, les textes sur cette question donnent, semble-t-il, parfois deux sons de cloche. Si on se pose la question « Une femme peut-elle prêcher ?» Bon, certains vont citer 1 Timothée 2:12 « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, qu'elle demeure dans le silence. » C'est clair. Donc on n'a pas besoin de parler davantage. D'autres vont évoquer 1 Corinthiens 11 « Mais toute femme qui prie ou qui parle en prophétesse, qu'elle le fasse avec la tête couverte. » Donc les femmes peuvent parler, peuvent prophétiser, parler de la part de Dieu. Et toute l'Église est appelée à être à l'écoute. Parce que ailleurs, l'apôtre Paul dit « Celui ou celle qui prophétise parle aux hommes, édifie, exhorte, encourage. » Vous pouvez tous prophétiser, mais chacun à son tour pour que tout le monde soit instruit et encouragé. Alors, si on désire être fidèle à ce que Paul nous dit, la question est réglée. Oui, les femmes peuvent enseigner. Enfin, vous voyez, certains textes semblent aller dans un sens et d'autres textes semblent aller dans un autre. Et on peut arriver à des conclusions assez radicalement opposées à partir de ces textes. Il y a une dissonance, donc, dans les textes du Nouveau Testament. Peut-être encore un mot, on peut voir aussi même des textes, une dissonance dans des textes relatifs à la soumission. Certains textes soulignent la soumission de la femme à son mari en tout. Car l'homme est la tête de la femme, comme le Christ est la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, qu'ainsi les femmes se soumettent en tout à leur mari. Mais ailleurs, Paul ne demande pas à l'épouse de se soumettre. Et il ne souligne pas l'autorité du mari sur sa femme. Au contraire, par exemple, dans le domaine des relations sexuelles, il donne une autorité égale à chacun des partenaires du couple. 1 Corinthiens 7, que le mari rende à sa femme ce qu'il doit, de la même façon que la femme rende ce qu'elle doit à son mari. Ce n'est pas la femme qui a autorité sur son propre corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui a autorité sur son propre corps, c'est sa femme. Et si vous êtes marié, je pense que si dans ce domaine-là, il y a une réciprocité à ce point, je pense que dans tous les autres domaines de la vie, il y a aussi réciprocité. Et d'ailleurs, dans ce texte de 1 Corinthiens 7, ce texte continue avec 6 autres parallèles de réciprocité de droit entre hommes et femmes. Et je suis d'ailleurs souvent frappé qu'on utilise très peu le chapitre 7 de 1 Corinthiens, pour parler du couple, de la relation homme-femme, alors que c'est le plus long texte sur le sujet. Donc, un peu de dissonance aussi. Dissonance entre certaines injonctions, certains commandements, et ce qui semble avoir été parfois la pratique. S'il y a des textes qui affirment qu'une femme ne doit ni enseigner, ni prendre la parole, mais rester dans le silence, on voit dans la pratique l'exemple, par exemple, de Priscille, qui a enseigné Apollos, l'exemple des prophétesses, qui qui étaient des porte-parole de la part de Dieu, hein, comme les quatre filles de Philippe dans le livre des Actes, dont il est dit qu'elles étaient prophétesses. Et dans le livre des Actes, lorsqu'on parle de prophètes, on a l'exemple de Jude et Silas, dont il est dit au chapitre 15, « Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, encouragèrent les frères et les affermirent par de nombreux discours. » Voilà, quand on est prophète, ce qu'on fait. Or, il y avait quatre filles de Philippe, dans le livre des Actes, qui étaient prophétesses. Donc, il y a des commandements, des injonctions qui vont dans un sens, et on a l'impression que dans la pratique, il y a aussi des exemples qui vont dans un autre sens. Alors, comment s'orienter ? Quand on est face à la dissonance indéniable des textes du Nouveau Testament, à quelle voie donner priorité ? Comment faire un choix là-dedans ? Sur quelle base ? Et là, je dirais, les problèmes, s'ils n'avaient pas commencé avant, ils commencent sérieusement là. Pour ceux qui donnent la priorité à un schéma, on pourrait dire, hiérarchique, les commandements qui excluent les femmes d'un ministère de parole et d'un rôle d'autorité sont pris comme des choses permanentes à appliquer dans toute église, à toute époque. Et donc, un passage comme Galates 3:28, qui semble plutôt ouvrir à une certaine liberté, va être relégué au domaine spirituel. Il n'y a plus ni homme ni femme. Oui, mais ça, c'est simplement dans le domaine spirituel. C'est une déclaration, on pourrait dire, par rapport au salut, mais ça ne dit pas comment nous devons vivre dans l'Église. En revanche, ce qui donne la priorité à un schéma, on pourrait dire, de réciprocité, vont, eux, au contraire, prendre parmi leurs versets phares, Galates 3:28, justement. En Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. Ils vont prendre des textes, par exemple, pour parler de Junia, désignée comme femme apôtre, ou Phoebé, leader dans l'Église. Quelle que soit la position prise, tous les textes seront lus à la lumière d'une grille de lecture sous-jacente. Et donc, il nous faut regarder, en réalité, qu'est-ce qui y est dans ces grilles. Et on en a tous une, inconsciente ou pas. Nous avons tous notre grille. Luther, par exemple, ce n'était pas du tout inconscient chez lui, il avait comme grille, on pourrait dire, la justification par la foi. Et c'est à travers cela qu'il lisait tout le Nouveau Testament. Et pour lui, l'épître de Jacques, qui parle des œuvres, il considérait ça comme, il appelait, une épître de paille. Alors, il y a deux grilles de lecture qui sont là en présence. La première grille de lecture met l'accent sur la création originelle relatée en Genèse chapitre 2. Selon Genèse chapitre 2, l'homme a été créé en premier. La femme a été prise de l'homme. Et pour ceux qui lisent la question du ministère féminin au travers de cette grille de lecture, Dieu, par cet ordre chronologique, a établi une priorité de l'homme sur la femme. Certains vont souligner qu'Adam n'a pas simplement été créé en premier, il nomme sa femme, c'est une sorte de geste d'autorité. Donc, Ève trouve son identité dans sa relation à Adam. C'est Adam qui doit rendre des comptes à Dieu, le premier, lorsqu'ils ont péché. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose que beaucoup soulignent abondamment aujourd'hui, le péché est entré dans le monde parce que Ève s'est emparée de l'autorité d'Adam. Aujourd'hui, il y a l'accent concernant le péché originel, c'est un petit peu déplacé. Ce n'est plus tant la désobéissance envers le commandement de Dieu qui est au centre, mais ce qui est au centre, c'est le renversement de l'ordre du couple. Voilà. Si tout fout le camp, c'est parce que Ève a pris la place d'Adam. Voilà. Je le dis un peu vite, mais je vous assure, lisez la littérature, vous verrez. En français, un des derniers livres sur le sujet, c'est Claire Smith, Le projet bienveillant de Dieu. C'est publié par l'IBG, que j'aime beaucoup par ailleurs, l'IBG. Mais voilà, je ne les félicite pas sur ce truc-là. Vous lisez Claire Smith, elle développe ça amplement. Avec aussi beaucoup d'autres choses. Adam n'était pas susceptible de pécher, mais Ève, oui. J'ai cru que j'allais m'évanouir en disant ça. Donc, le premier être créé possède une position d'autorité supérieure au deuxième être créé et démontre l'intention de Dieu. Le rôle de l'homme est d'exercer l'autorité et le leadership. Cela doit être fait de manière chrétienne, bien sûr, par la domination, mais le rôle de la femme est de se soumettre à son autorité et d'être un soutien pour l'homme à la maison, mais aussi à l'église. Et certains diront même dans la vie de tous les jours. Si vous demandez à John Piper est-ce qu'une femme peut être agent de police, eh bien, il va vous dire... Alors, il ne dit pas directement non, mais il explique qu'il ne faudra pas, parce qu'en tant qu'agent de police, elle pourrait être amenée à avoir donc autorité sur un homme. Donc, ça ne va pas. Voilà. Une deuxième grille de lecture, au contraire, va souligner que ce rapport de domination et parfois conflictuel entre l'homme et la femme. Ce rapport où l'homme entre dans une domination par rapport à la femme, c'est la conséquence de Genèse 3, de la chute. C'est la conséquence du péché. Et le projet de Dieu, c'est un projet de nouvelle création. C'est le projet de nous extirper de toutes les conséquences du péché. Bien sûr, nous vivons encore aujourd'hui les conséquences du péché, mais le projet de Dieu, c'est de nous délivrer de cela, de recréer une humanité réconciliée. Dieu ne laisse pas le monde livré à lui-même. Et en Jésus-Christ, la nouvelle création s'est manifestée dans notre histoire. Et Jésus est les prémices de cette nouvelle création. Sa résurrection non seulement anticipe l'avenir de Dieu, mais le garantit. En même temps, nous attendons que ce soit pleinement réalisé. Aujourd'hui, on vit dans ce qu'on appelle le déjà et le pas encore. Nous sommes déjà participants en Christ de la nouvelle création, mais nous ne sommes pas encore totalement dans cette création renouvelée par Dieu. On est, voilà. Spirituellement, nous sommes déjà introduits dans le déjà, mais voilà, nous vivons tous les jours dans le pas encore. Mais un jour, Dieu interviendra pour actualiser pleinement, pour mettre un point final à son œuvre de réconciliation et de recréation. Et dans cette période de l'entre-deux, la nouvelle communauté, l'Église, fruit de l'œuvre rédemptrice de Dieu, est appelée à participer au grand projet de Dieu, non seulement en priant que ton règne vienne, mais aussi en vivant les valeurs du règne qui vient. Nous sommes appelés à être un signe du pas encore, de ce qui n'est pas encore là, mais dont nous avons déjà goûté les prémices. Donc, en tant que communauté appelée à vivre, à manifester les prémices de la nouvelle création, eh bien, nous sommes appelés à vivre autre chose dans les relations hommes-femmes. Et c'est là où nous devons apprendre à lire le Nouveau Testament et Paul à la lumière de la nouvelle création. C'est ça notre grille de lecture. La pratique de l'Église primitive s'inspire de la pratique de Jésus, puisque Jésus est les prémices de la nouvelle création. Pendant son ministère terrestre, les disciples montrent combien le comportement de Jésus envers les femmes s'écartait de la norme. À plusieurs reprises, ils n'ont pas compris le comportement de Jésus. Ils ont été surpris de le trouver en conversation particulière avec la femme samaritaine. Ils se sont indignés de voir une femme oindre les pieds de Jésus. Ils ont tenté de l'éloigner. Ils ont tenté d'éloigner les enfants aussi, à proximité de Jésus. Mais Jésus s'adressait aux femmes et leur donnait un enseignement. Il leur permettait de le suivre et de prendre une part active à son ministère. Aucun rabbin de l'époque n'aurait fait une telle chose. Le professeur Jérémias pense qu'il s'agit d'un événement sans précédent dans l'histoire de cette époque. Dans la tradition des rabbins, la femme n'est pas considérée comme un être responsable et adulte, égal de l'homme. Elle n'est pas enseignée dans la connaissance de la loi. Un rabbin, paraît-il, disait « que l'on brûle la Torah plutôt que d'en communiquer les enseignements à une femme ». La partie de la synagogue où les rabbins enseignaient était interdite aux femmes. Les écoles rabbiniques étaient réservées aux garçons. Même si dans le judaïsme de la diaspora, donc hors de Palestine, certains pensent que la condition des femmes dans les synagogues était beaucoup plus avantageuse, et certains disent même que peut-être des femmes ont été chefs de synagogue, mais la chose est disputée parmi les spécialistes. Luc note la présence à la croix des femmes qui avaient accompagné Jésus. Et il ajoute, il est le seul à le faire d'ailleurs, une autre référence aux femmes qui faisaient route avec Jésus pendant son ministère dans Luc 8. Il écrit ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, appelée Madeleine, de qui étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne, et plusieurs autres qui les assistaient de leur bien. Et Lindauer remarque, ces versets sont un résumé du ministère de Jésus, ce qui indique la répétition d'un événement dans le temps. Dans ce qui est l'ordre de l'habituel, Luc cite le nom de 3 femmes qui, comme les 12, étaient avec Jésus. Et il ajoute qu'il y en avait beaucoup d'autres. Les 2 premiers noms, Marie-Madeleine et Jeanne, sont repris dans Luc 24, lors de la résurrection. Et ça montre au lecteur que les femmes étaient avec Jésus du début à la fin, pendant tout ce temps. Et donc que Jésus soit suivi publiquement par un groupe de disciples mixtes, cela tranche clairement avec les habitudes de son époque. Luc donne aussi l'exemple d'une autre femme disciple en la personne de Marie, sœur de Marthe. Dans ce récit unique, Marie est assise au pied de Jésus, avec les hommes, avec les disciples, tandis que Marthe, elle, accomplit le rôle traditionnellement imparti aux femmes. Et en réponse à la plainte de Marthe, Jésus défend et loue le rôle de Marie. L'historien juif Joseph écrit que la loi de Moïse n'admet pas les femmes comme témoins légaux. En réalité, la loi de Moïse n'exclut pas explicitement les femmes de ce rôle, mais au 1er siècle, les femmes ne pouvaient pas jouer un rôle de témoin dans un procès, par exemple. Et on voit la réaction des disciples hommes à l'annonce de la résurrection de Jésus par les femmes. Ces paroles leur parurent une niaiserie et ils ne crurent pas les femmes. Ça va de soi. Or, Jésus choisit délibérément des femmes comme premier témoin du tombeau vide. Les prémices de la nouvelle création. J'ai cité tout à l'heure Margaret Fell, pour dire c'est elle qui a écrit au XVIIe siècle, le premier écrit en défense du ministère des femmes. Elle insiste beaucoup là-dessus pour dire, mais le Seigneur nous a envoyés pour être témoins de sa résurrection. On ne peut pas se taire. Et dans les quatre évangiles, les femmes sont les premières averties de la résurrection et les premières à qui on demande d'annoncer la bonne nouvelle. En Jean 20, Marie de Magdala est la première personne à qui le Christ ressuscité se révèle, alors que deux des disciples, et pas des moindres, Pierre et Jean, sont au même endroit peu avant. Jésus a choisi de ne pas leur apparaître, mais d'attendre et d'apparaître à Marie de Magdala. Et Jésus envoie Marie annoncer la bonne nouvelle à ses frères. Après la Pentecôte, Pierre cite le texte du prophète Joël, où Dieu promet « Je répandrai de mon esprit sur tous. Vos fils et vos filles parleront en prophètes. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes esclaves, hommes et femmes, en ce jour-là, je répandrai de mon esprit. » Et Pierre ajoute « Et ils parleront en prophètes. » Ce n'est pas dans le texte de Joël. Ils parleront en prophète. Au début de cette nouvelle communauté, personne n'est privé a priori d'un ministère de parole à cause de son âge, de son statut social, de son sexe. Ils parleront tous en prophète. Les derniers jours qu'annonçait Joël ont fait leur entrée dans le temps des humains. Après la Pentecôte, les femmes aussi, de nouveau, s'assemblent avec les hommes, lors des rencontres de l'Église, ce qui tranche avec la pratique de la synagogue. J'ai déjà mentionné les quatre filles de Philippe et le rôle de Priscille. Et même dans les communautés fondées par Paul, dans les salutations de l'Épître aux Romains, on peut remarquer que parmi les personnes dont l'engagement dans la vie de l'Église est précisé, les femmes sont majoritaires. 7 femmes, 5 hommes. Phoebé, qui est serviteur de l'église de Sancrée, est qualifiée de protectrice. Quoi que cette expression veuille dire exactement, il y a beaucoup de discussions, il y a une connotation d'autorité. Une femme, Junia, semble même être appelée apôtre remarquable. Certains vont dire, oh, c'était pas Junia, c'était Junias, c'était un homme. Non, le texte dit Junia et on ne trouve pas d'exemple d'homme qui s'appelait Junia. Marie, Perside, Tryphène, Tryphose se sont beaucoup dépensés, ont travaillé pour le Seigneur. Et Paul demandera aux Corinthiens de se soumettre à de telles personnes. Évodie et Saint-Tiche sont collaboratrices de Paul. Elles ont combattu côte à côte avec lui pour l'Évangile. Il est intéressant de noter que Paul utilise exactement le même langage pour parler du ministère des femmes et du ministère de ses collègues hommes. Ils sont appelés pareillement compagnons de captivité, compagnons dans le service, compagnons d'œuvre. Ils travaillent avec peine pour des hommes et pour des femmes. On connaît en fait plus de noms de femmes leaders que de noms d'hommes dans les épîtres de Paul. Paul cite plus souvent des noms féminins que des noms masculins. Donc ce que le Nouveau Testament nous livre de la vie de l'Église apostolique semble correspondre à la déclaration de Paul. Il n'y a donc plus de différence entre les juifs et les non-juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. En réalité, on pourrait dire que seuls 2-3 textes semblent être directement restrictifs quant à la prise de parole des femmes. Et c'est sur ces textes-là, très souvent, qu'on se déchire, et ce sont des textes très difficiles. Et c'est sur eux que s'appuient généralement ceux qui veulent restreindre la parole des femmes dans l'Assemblée. Corinthiens 14:34-35, 1 Timothée 2:11-12, et aussi 1 Corinthiens 11:3-15. Alors, on va essayer de, dans le temps qui nous reste, essayer d'aller à travers ces trois textes. Je redis encore que ce sont des textes difficiles et pour chacun d'eux, il faudrait y passer 2 heures ensemble pour vraiment aller au fond des choses, mais j'espère que peut-être vous les connaissez déjà. Donc, on va lire ce texte. Alors, on va essayer de voir ces trois textes. Le premier texte, 1 Corinthiens 14, des versets 33 à 35. Là, Paul dit, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est choquant qu'une femme parle dans l'église. C'est un verset radical, qui est étonnant par, je dirais presque sa brutalité, on pourrait dire, en tout cas sa radicalité. Pour les tenants d'une lecture littérale, Paul interdirait donc purement et simplement aux femmes de parler dans les assemblées. Elles ne doivent ni prier, parler, témoigner, encore moins enseigner. Mais cette lecture littérale doit faire face à un problème de taille. Parce que 3 chapitres auparavant, chapitre 11, en traitant de la question du voile, Paul reconnaît aux femmes la possibilité de prier et de prophétiser dans l'assemblée. Donc, elles peuvent prier et prophétiser ou elles doivent se taire? Cette lecture littérale est incompatible avec une conception évangélique de la parole, où il n'y a pas de contradiction. C'est une règle, je dirais, d'herméneutique ou de lecture de l'Écriture pour nous. Déjà que deux textes puissent se contredire, mais chez le même auteur et dans la même lettre, là, c'est quand même difficilement concevable. Pour autant, tout en ayant une lecture assez littérale de ce texte, beaucoup d'évangéliques laissent tout de même les femmes prier, donner un témoignage, voire faire un partage sur un texte biblique. Voilà, un certain pragmatisme arrondit les angles sans toujours pouvoir justifier cette accommodation. Alors, comment faire devant un texte comme cela qui, visiblement, on pourrait dire en quelque sorte, ne peut pas vouloir dire ce qu'il semble dire, parce que sinon il contredirait ce que Paul dit trois chapitres avant. Lorsqu'on cherche à interpréter un texte, on sait que le sens d'un mot dépend de la phrase et que le sens d'une phrase dépend de l'ensemble du texte et que le sens d'un texte dépend du contexte. Voyez ? Et on cherche donc à identifier le contexte de la lettre en espérant pouvoir mieux comprendre les propos de Paul. Pour certains, la situation pourrait être rapprochée de celle de la synagogue où les hommes et les femmes étaient séparés et cette situation a pu encourager les femmes à interrompre les hommes par leurs questions sur ceux qui étaient prophétisés, ou d'autres, puisqu'il s'agit de femmes, dit simplement les femmes bavardaient. Et c'est ça que l'apôtre Paul dit, voilà, que les femmes arrêtent de bavarder. Il ne dit pas qu'une femme ne peut pas prendre la parole, mais que les femmes arrêtent de bavarder. C'est peu convaincant. Mais en suivant plusieurs commentateurs, il nous semble qu'en tenant compte du contexte des versets en question, nous pouvons mieux cerner une partie du sens de ce que l'apôtre Paul veut dire. À partir du début du chapitre, Paul aborde la question de la prophétie. et celle des langues, afin de reprendre les débordements et fixer la place de ces éléments dans le culte. Donc, c'est un contexte où il y a des débordements et l'apôtre Paul veut recadrer les choses. Et après avoir expliqué le sens et la place de la prophétie et des langues, Paul donne des instructions précises sur leur gestion dans l'Église. Et les versets qui nous intéressent se situent à la fin de ces instructions. Alors, si on considère la structure des versets, je ne sais pas si vous arrivez à lire de là où vous êtes, voilà un petit peu ce qu'on obtient. Donc, j'ai mis à gauche un petit peu ce qui donne la structure et le texte en face. Donc, ça s'est inspiré d'un article de Jacques Buchold dans Fac Réflexion, il y a déjà un certain nombre d'années. Il y a d'abord une question par rapport au sujet. Comment donc agir, mes frères ? L'édification est le but. Lorsque vous vous réunissez, l'un chantera un cantique, l'autre aura une parole d'enseignement, un autre aura une révélation, celui-ci s'exprimera dans une langue inconnue, celui-là en donnera l'interprétation, que tout cela serve à faire grandir l'Église dans la foi. Ensuite, on précise les choses. Énoncé du sujet numéro 1. Si l'on parle dans des langues inconnues. Alors, précision par rapport à la forme. Combien ? Que deux le fassent, ou tout au plus trois. Comment ? L'un après l'autre. Au niveau du fond, qu'il y ait quelqu'un pour traduire. Commentaire sur le fond et limite. S'il n'y a pas d'interprète, que celui qui a le don des langues garde le silence dans l'assemblée, qu'il se contente de parler à lui-même et à Dieu. Donc, nous avons un premier sujet qui se conclut aussi par une demande que des gens se taisent. Vous voyez ? Énoncé du sujet 2, puisqu'il a parlé des langues, on en vient à la prophétie, énoncé du sujet numéro 2. Quant à ceux qui prophétisent, la forme, combien ? Que deux ou trois prennent la parole, exactement comme pour les langues. Le fond, que les autres jugent ce qu'ils disent. Si l'un des assistants reçoit une révélation pendant qu'un autre parle, celui qui a la parole doit savoir se taire. D'accord ? Se taire. Ainsi, vous pouvez tous prophétiser à tour de rôle. Dieu, en effet, n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Commentaire sur le fond et une limite. Comme dans toutes les églises, de ceux qui appartiennent à Dieu, que les femmes n'interviennent pas dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de se prononcer, mais qu'elles sachent se tenir dans la soumission comme le recommande aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelques points, qu'elles interrogent leur mari à la maison. En effet, il est inconvenant pour une femme de se prononcer dans une assemblée. Et la grande conclusion de l'ensemble, veillez à ce que tout se passe convenablement et non dans le désordre. La structure de l'argumentation de Paul fait apparaître clairement l'intention et la portée des recommandations de Paul concernant la prise de parole des femmes. Pour les langues comme pour les prophéties, il est question de se taire. S'il n'y a pas d'interprète, ceux qui parlent en langue doivent se taire. Et si un second prophète prend la parole, le premier doit se taire. De même, lors de l'évaluation de la prophétie, les femmes doivent se taire. Lorsque quelqu'un apporte une parole inspirée et qu'elle doit être soumise à une évaluation, dans le contexte de Corinthe, les femmes n'ont pas à prendre part au débat. Vous voyez la structure qui fait apparaître que cette restriction spécifique qui est adressée aux femmes concerne le sujet de l'évaluation de la prophétie. Ça n'est pas simplement, elle ne doit pas parler. Lorsque il y a quelqu'un qui parle en langue, s'il y en a un premier qui parle, les autres doivent se taire. Lorsqu'il y a, et puis on doit donner l'interprétation. Et si on ne peut pas donner l'interprétation, on se tait. Quand il y a la prophétie, ben, un parle et les autres écoutent. Et après, on évalue. Et là, Paul dit, les femmes doivent se taire, parce que c'est inconvenant. Cette compréhension du texte va dans le sens du commentaire que l'apôtre Paul fait. Si elles veulent s'instruire sur quelques points, qu'elles interrogent leur mari à la maison. L'indication, comme le dit aussi la loi, pourrait s'éclairer par la pratique de l'époque où une femme ne pouvait pas témoigner, prendre part à un procès. Le silence des femmes n'est donc pas plus absolu que celui de ceux qui parlent en langue ou des prophètes. Chacun dans l'Église, à certains moments, doit savoir se taire. Pour les femmes, dans l'Église de Corinthe, c'est lors de l'évaluation de la prophétie. Alfred Kuhn, qui aussi, déjà il y a quelques années, dans le livre qu'il avait écrit sur le ministère féminin, sera lié lui aussi à cette lecture, et il soulignait une majorité croissante d'exégètes évangéliques se rallient à cette lecture. Pourquoi Paul impose-t-il ces restrictions ? Paul manifeste tout d'abord son souci pour l'ordre dans l'Église. C'est cela qu'il dit et qu'il martèle. Tout doit se faire avec bienséance et avec ordre. C'est sa principale préoccupation. Il interpelle les Corinthiens sur ce qui est convenable et ce qui ne l'est pas, ce qui se fait et ce qui ne se fait pas, d'ailleurs selon le sens commun des croyants en présence. Le fait qu'une femme intervienne dans ce contexte était inconvenant au regard de la coutume de l'époque. Et son troisième souci, c'est celui de l'unité de l'Église. En donnant ses instructions, Paul évoque la pratique des autres églises. Il tient à ce que les pratiques des églises particulières, et l'église de Rome comme les autres, ne provoquent pas de soucis, de division entre les différentes églises. Donc, ce premier texte peut être tout à fait, lu dans le contexte de l'époque, comme une limitation que l'apôtre Paul donne par rapport à l'évaluation de la prophétie dans l'Assemblée, où il dit, là, les femmes ne doivent pas y prendre part. On peut se poser la question, bien sûr, dans notre contexte culturel, est-ce inconvenant qu'une femme participe à une évaluation, à un débat? Voilà. Je pense que la réponse est tout trouvée, mais on pourrait se dire, il y a tout à fait la place pour une contextualisation, pour se dire que aujourd'hui, ça ne choque personne, ça n'est pas inconvenant. À l'époque, c'était inconvenant, et l'apôtre Paul dit, là, il faut faire les choses de manière convenable, pas d'une manière qui choque le sens commun. Je vais au bout et puis après on posera des questions s'il y a, que je vois que le temps file. Deuxième texte aussi avec très fort dans 1 Timothée 2, versets 11 et 12, où l'apôtre Paul dit que la femme s'instruise en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de dominer l'homme, qu'elle demeure dans le silence. Comme pour 1 Corinthiens 14, il nous faut ici prêter attention au contexte immédiat. Dans le chapitre 2, Paul fait une série de recommandations qui ont comme point commun son souci de bon ordre et de paix, dans la soumission aux autorités. D'abord, l'apôtre Paul, au verset 2, va inviter toute la communauté à prier pour les autorités civiles afin qu'ils puissent vivre en paix. Ensuite, il invite les hommes à prier en élevant des mains pures, sans colère ni contestation. Il en vient ensuite aux femmes et les invite à se parer de modestie, de bonnes œuvres plutôt que de stress. et de strass aussi. De parures somptueuses, de bijoux, et de recevoir l'enseignement dans la paix. Au verset 12. Alors, venons-en plus particulièrement, après avoir remarqué déjà ce... On peut remarquer ce contexte où déjà il est question de prier pour les autorités, il y a déjà pour l'ensemble de la communauté cette attitude de soumission par rapport aux autorités. Paul se tourne vers les hommes et dit « Vous devez prier sans colère ni contestation. » Et il se tourne après vers les femmes pour dire que les femmes, alors la question c'est est-ce s'instruire paisiblement ou garder le silence? L'accent du texte est celui d'apprendre. On peut voir la structure du texte là, qui a une structure en chiasme, on reviendra sur ça, mais c'est un petit chiasme. Que la femme s'instruise dans le calme et la soumission, qui fait écho à la dernière ligne, qu'elle demeure dans le calme, et au milieu, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de dominer l'homme. Le mot qui est utilisé est sukkia, qui est souvent traduit par silence, que les femmes se taisent ou soient dans le silence, et traduit la plupart du temps dans les autres textes, 1 Thessaloniciens 4, 11, 2 Thessaloniciens 3, 2, Luc 23, 56, 1 Pierre 3, 4, par tranquillement ou paisiblement. Donc l'apôtre Paul ne dit pas que les femmes s'instruisent en silence, mais paisiblement. Et ça fait écho à ce qu'il a déjà dit avant, les hommes aussi ne doivent pas prier plein de contestations. Je ne sais pas comment on prie plein de contestations, mais voilà. Et pour les femmes aussi, il doit y avoir cette même attitude de cœur, de s'instruire dans paisiblement et non pas en silence. Les sukkia, c'est parmi les Grecs le nom d'une déesse, et elle représente la paix de l'esprit à laquelle a droit un vainqueur lorsqu'il se repose après le combat. C'est le fait de trouver le calme. Et c'est important de souligner que c'est ça que l'apôtre Paul dit, elles doivent le faire paisiblement et non pas en silence. On peut se poser la question après, est-ce que toutes les formes d'enseignement sont prohibées? D'après plusieurs exégètes, le terme utilisé, otantein, que la femme n'enseigne pas, ni ne prenne autorité sur l'homme, autorité, otantein, n'est pas le bon habituel pour autorité. C'est même en réalité la seule fois dans le Nouveau Testament où ce terme est utilisé. Il est utilisé par certains auteurs classiques avec le sens de commettre un meurtre, avoir un comportement criminel, même se suicider. D'après certains, il s'applique d'abord à l'instigateur d'un crime, notamment au meurtrier pour le distinguer de son complice. Pour d'autres, c'est le sens d'agir de manière indépendante qui est souligné. Au verset 9, Paul avait demandé aux femmes de faire preuve de modestie. Le terme qu'il utilise, c'est sophrosyné en grec. Et cette sophrosyné était pour les Grecs la vertu féminine par excellence. Il s'agit de la vertu de celui qui se retient d'abuser de son pouvoir, qui sait maîtriser ses passions. Et donc, si c'est dans ce sens qu'il faut comprendre ce terme d'enseigner avec autorité, il s'agit de, on pourrait traduire aussi, usurper l'autorité ou dominer. Donc, l'apôtre Paul, ici, enseignerait que les femmes doivent écouter paisiblement et non pas à chercher à enseigner en dominant. C'est donc l'attitude de certaines femmes, probablement sous l'influence des faux docteurs, qui sont rebelles à l'enseignement apostolique et enseignent de leur propre chef qui est visé. Paul n'interdirait pas purement et simplement aux femmes d'enseigner, mais d'enseigner dans une attitude de prise de pouvoir sur les hommes. La prise en compte du contexte global d'un Timothée semble renforcer cette compréhension. Lorsqu'on lit les deux lettres que l'apôtre Paul écrit à Timothée, nous voyons la situation de l'église d'Éphèse. Déjà dans le livre des Actes, acte 20, 29, l'apôtre Paul avait prévenu les anciens d'Éphèse pour leur dire « Il viendra parmi vous des loups ». Et lorsqu'il écrit, il écrit pour donner aux dirigeants des églises la sagesse nécessaire pour préserver leurs églises des ravages des hérésies. Timothée est resté à Éphèse pour lutter contre les faux enseignants. Et cette préoccupation de fausse doctrine ressort dans toute la lettre. L'épître commence et se termine par l'influence des faux enseignants qui séduisent des gens. Et c'est grave parce que certains ont déjà abandonné la foi. Et l'apôtre Paul dit que quelques femmes à Éphèse sont particulièrement influencées par de fausses doctrines et qu'elles propagent en allant de maison en maison. Et la conséquence, c'est que quelques-unes, chapitre 5, verset 16, ont dévié pour suivre Satan. De faux docteurs prescrivent de ne pas se marier, de s'abstenir de certains aliments. Nombreux sont ceux qui se sont égarés quant à la foi pour s'échouer dans des disputes interminables. Et ces faux prophètes semblent trouver un appui particulier auprès donc de jeunes femmes. C'est un élément constant dans les épîtres pastorales, même si on inclut aussi Tite, que Timothée et Tite doivent se tenir à l'écart de toutes ces querelles inutiles, et l'apôtre Paul dit même à Tite qu'il doit fermer la bouche à ceux qui, surtout parmi ceux qui sont d'origine juive, sont de vains discoureurs, des séducteurs qui bouleversent les familles. Tite 1:10. On voit donc que le contexte global dans l'église d'Éphèse et tout autour dans cette époque, il y a un contexte où les faux prophètes, les faux enseignants ont gagné du terrain et que l'église est en train de les suivre, et en particulier certaines femmes. Et l'apôtre Paul écrit pour corriger cela. Et c'est une constante dans toute la lettre qu'il écrit à Timothée. Il n'y a donc pas forcément de contradiction ici avec le reste de ce que nous pouvons voir dans le Nouveau Testament au sujet du ministère des femmes. À Timothée, semble s'adresser à une situation particulièrement difficile à Éphèse, et l'apôtre Paul vient pour appeler à une attitude paisible des femmes et à ce qu'elles n'enseignent pas en prenant autorité, en usurpant quelque chose qu'elles n'ont pas à prendre, et notamment en suivant les faux prophètes. Notre temps va vite, donc je passe au dernier texte. Si les deux premiers textes sont difficiles, et j'ai été très vite, je pense qu'on en a conscience en donnant quelques lignes de lecture, le troisième, c'est un peu le pompon. Alors lui, on lit dans les commentaires des pages et des pages, et les commentateurs s'arrachent les cheveux, c'est bien le cas de le dire. Il s'agit de ce texte de 1 Corinthiens 11, 1 à 16, qui nous parle de l'homme est la tête de la femme, et vous savez, tout ce texte sur le voile. Alors je vais rapidement le lire pour voir à quel point on s'arrache les cheveux. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est la tête de tout homme, que l'homme est la tête de la femme, et que Dieu est la tête de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore sa tête. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore sa tête. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Doit avoir sur la tête une marque d'autorité. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, pas plus que les églises de Dieu. Donc, comme je l'ai dit, ce passage est notoirement difficile, parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans ce texte qui sont difficiles à harmoniser, à comprendre. Les débats se focalisent notamment autour du sens du mot « képhalé », « tête », l'homme est tête de la femme. Est-ce que Paul veut dire « l'homme est le chef de la femme » comme, un peu comme en français, on parle d'un couvre-chef. Hein, donc il y a cet équivalent entre la tête et le chef. Il y a aussi des questions, est-il question d'un voile ou d'un style de coiffure? Quel est surtout le rapport entre le fait qu'une femme doive avoir la tête voilée dans le culte et les anges? Quelle était la pratique de la société de l'époque au sujet du voile féminin? Paul semble aussi dire que l'homme est l'image de Dieu. Est-ce que la femme l'est seulement de manière seconde? Voilà, donc c'est un texte où il y a beaucoup de matière, donc on ne va pas tout démêler là, mais voilà. Donc la lecture traditionnelle dit à peu près ceci. À Corinthe, certaines femmes refusaient de porter le voile traditionnel, prétextant la liberté qu'elles avaient en Christ. Ce faisant, elles risquaient d'être un sujet de scandale. L'apôtre Paul intervient pour réaffirmer que l'homme est le chef de la femme. Et en s'abstenant de mettre leur voile, elle faisait comme si elle s'émancipait de l'autorité des hommes ou de leur mari. Ça dépend des commentateurs. Lorsque les femmes s'expriment publiquement, elles doivent le faire d'une manière qui respecte l'autorité donnée aux hommes par Dieu. Nous ne savons pas très bien pourquoi Paul parle des anges, mais ce n'est pas indispensable pour comprendre le passage. Paul ancre la soumission de la femme aux hommes dans l'ordre créationnel, dans le fait que la femme a été créée pour l'homme. Donc cet enseignement est valable pour l'Église de tous les temps. Donc voilà un petit peu comment, je résume un peu comment ce texte est globalement compris. Et là encore, je vous dis, vous pouvez lire autant de commentaires que vous voulez, vous verrez que les positions sur tel ou tel point peuvent varier. Je veux rapidement souligner quelques problèmes de cette lecture traditionnelle. Première chose, pourquoi Paul loue-t-il les Corinthiens si son but est ici de corriger une mauvaise pratique? Parce qu'il commence en disant... Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi et que vous retenez mes instructions. Il a déjà, dans les chapitres précédents, taillé les Corinthiens plus qu'il ne faut. Donc, c'est pas une précaution de langage. Il n'hésite pas à les reprendre. Et même juste après, ce qui suit les versets immédiatement, c'est « Là où je ne vous loupe pas, c'est que vous vous assemblez pour être pire et pas pour être meilleur. » Donc, dire qu'il y avait un problème que Paul essayait de corriger, voilà. Souvent, les commentateurs soulignent une question comme si l'honneur du mari était en question lorsque une femme ne portait pas son voile, mais le texte parle de l'homme et pas du mari. Voilà, c'est pas les maris qui sont en question, mais c'est l'homme. Donc, en quoi le fait que les femmes ne portent pas le voile, voilà, est un problème par rapport aux hommes. Je passe certains problèmes, parce que j'ai pas le temps de tous les souligner. Un autre problème important, c'est que cette lecture traditionnelle veut dire donc la femme doit avoir sur la tête un signe de l'autorité dont elle dépend. Et le terme est exousia, elle doit avoir sur la tête un signe de l'autorité dont elle dépend. Le texte grec dit simplement elle doit avoir sur la tête un signe d'autorité. Et le terme exousia n'est jamais utilisé pour parler de l'autorité dont on dépend, mais toujours l'autorité qu'on exerce. Donc, traduire elle doit avoir sur la tête un signe de l'autorité dont elle dépend va à contresens de l'utilisation du terme exousia. Par exemple, la Bible Semeur, dans ses deux premières éditions, de 92 et de 2000, était une des premières Bibles à avoir corrigé cela. Elle écrivait « Voilà pourquoi la femme doit porter sur la tête un signe de son autorité ». La Semeur 2015 est revenue en arrière, si on peut dire, en disant « Voilà pourquoi la femme doit porter sur la tête un signe d'autorité à cause des anges. » Mais plus de son autorité. Alors c'est étonnant parce que voilà. La Semeur en 92 avait été une des premières traductions, la première traduction en français, à mettre un signe de son autorité parce que le terme « exousia », autorité, n'est jamais utilisé comme voilà, un signe de l'autorité dont elle dépend, mais un signe de l'autorité ou du droit qu'elle exerce. Et puis, surtout, la mention des anges reste énigmatique. Et ça, c'est pour moi le plus grand problème de la lecture traditionnelle. Alors, les exégètes disent, l'argument, c'est l'argument le plus difficile de Paul. Certains disent, ça reste une énigme. Alors, on a plusieurs suppositions. Est-ce que ce sont les anges au sens les anciens de l'Église? Parce que dans l'Apocalypse, écrit à l'ange, c'est apparemment écrit à l'ancien de l'Église. Est-ce que ce sont les envoyés des Églises, qui parfois sont appelés aussi les anges? Est-ce que ce sont les anges mauvais, qui risquent d'être séduits par les femmes? Est-ce que ce sont les anges présents dans le culte? Enfin bref, et tout le monde dit, c'est pas grave. Et pourtant, le verset 10, c'est pourquoi, à cause des anges, la femme doit porter un signe de son autorité sur la tête, se trouve au centre du texte. Alors, j'ai malheureusement oublié de mettre cela. La péricope est vraiment en chiasme, c'est-à-dire un peu comme tout à l'heure. Vous avez un premier élément qui répond à un dernier, etc. Et au milieu se trouve le verset 10. Et le verset 10 a en plus deux clauses. C'est pourquoi, donc voilà, Paul écrit, et il dit c'est pourquoi, à cause d'eux, des anges, voilà. Donc ça semble au contraire être le centre de son enseignement. Or tout le monde dit, on donne notre langue au chat. Mais on sait ce que le texte veut dire par ailleurs. Non, si c'est ça qui est le centre, si on ne trouve pas qu'est-ce que Paul voulait dire, peut-être qu'on comprend mal tout l'ensemble. Et donc si on peut trouver une lecture qui explique la question des anges, peut-être qu'on comprend mieux, on comprendra mieux ce que Paul veut dire. C'est compliqué, mais je vais faire une proposition de lecture qui, je le crois, va nous éclairer sur l'ensemble du texte. J'ai essayé de le présenter Il y a deux façons de présenter ce texte, mais voilà, j'ai essayé une des façons simples, je l'espère. Donc, nous allons en fait lire et commenter le texte en allant quelque part du plus facile à comprendre au plus difficile, en suivant justement la structure du texte. Cette structure en chiasme, où il y a un élément au début qu'on retrouve aussi à la fin, puis un deuxième élément qu'on retrouve en avant-dernier, hein, et qui va vers ce qui est au centre de l'enseignement. Et on va essayer d'avoir un regard un peu neuf de première lecture, et ça c'est toujours compliqué quand on a déjà lu 20 fois, 100 fois un passage, avoir un regard neuf, c'est pas toujours facile. Mais on va essayer, on va dire qu'on essaye. Hein. Simplement, dans le texte, il y a un seul parti pris, on pourrait dire, c'est que le terme « képhalé », je le laisse comme « tête ». Voilà, ça veut dire « tête » en grec, donc laissons-le comme « tête », ne mettons pas « chef » ou quoi que ce soit, ou « source », mais « tête ». Et peut-être qu'il y a des choses qui vont s'éclairer dans le texte. Le texte, en fait, commence avec une affirmation principale de Paul. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore sa tête. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore sa tête. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, au moment de prier ou de prophétiser, ce qu'on a ou pas sur la tête peut être déshonorant. Et pourquoi cette différence entre les hommes et les femmes? Pourquoi, dans un cas, si elle a quelque chose, c'est un honneur, si elle n'a pas, c'est un déshonneur, et pour les hommes, c'est l'inverse. D'accord? Mais ça, c'est l'affirmation d'abord centrale de Paul. Tout homme qui prophétise la tête couverte déshonore sa tête, et le contraire pour la femme. Ah, où est-ce que ça avance? Voilà. Alors, l'apôtre Paul explique et il donne deux arguments et on en retrouve un au début et le parallèle plus à la fin. Premier argument, explication du déshonneur chez la femme. L'apôtre Paul fait un parallèle entre ce qu'il y a sur la tête et les cheveux. C'est comme si elle était rasée. Voilà pourquoi la femme, elle doit avoir quelque chose sur la tête, parce que, en fait, si elle n'a rien, c'est un peu comme quand une femme est rasée, à l'époque. Car si une femme n'est pas couverte, ben, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, ben, qu'elle se couvre. Et il répétera cet argument un peu plus loin, une répétition plus explicite du premier, c'est encore le parallèle entre le couvre-chef religieux et le couvre-chef naturel qui fait l'explication de la différence homme-femme. Verset 13, jugez-en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Donc voilà les deux arguments de l'apôtre Paul. C'est comme si une femme était rasée, en fait, voilà, si elle ne porte pas de voile. Et deuxième argument, même la nature aussi va dans ce sens-là, dans la nature, alors la nature entre guillemets, parce qu'après tout, si les hommes aussi se laissent pousser les cheveux, ça peut être aussi long que les cheveux d'une femme, mais voilà, dans la nature, les femmes ont les cheveux longs, les hommes ont les cheveux courts, alors donc, voilà, quand la femme a quelque chose sur la tête, c'est un plus. Quand elle n'a pas, c'est un moins, et pour les hommes, c'est l'inverse. Est-ce que tu peux juste faire un petit clic, parce que ça ne semble pas avancer? Voilà. Hop. Attends. C'est ça? Je crois qu'on a sauté une... Non, on va s'arracher les cheveux là. Il y a la diapositive. Voilà. Voilà, merci. Petite remarque, les deux arguments de Paul confirment bien que l'honneur ou le déshonneur de notre tête, c'est notre honneur ou notre déshonneur, hein, si on a quelque chose ou pas, ça nous concerne nous. Et pour Paul, au moment de prier et de prophétiser, tout comme dans la vie courante, pour les femmes, avoir quelque chose sur la tête, c'est une gloire, une marque d'honneur. Pour les hommes, avoir quelque chose sur la tête est une honte. L'apôtre Paul en vient à un troisième argument. C'est une explication théologique de la différence. Et il le fait donc deux fois, parce qu'à chaque fois, il fait les choses en double, hein, d'abord, et puis à la fin. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme, et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Et puis, le parallèle, « Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. » Alors, un petit rappel. Selon les éléments du texte, donc pour les femmes, le voile, ou ce qu'on a sur la tête, est un élément positif, un honneur, une gloire. La femme doit donc manifester sa gloire, son honneur, en se parant d'un voile. Parce qu'elle est, et en faisant ça, elle est la gloire de l'homme. L'homme, lui, ne doit pas se parer d'un voile pour manifester sa gloire, son honneur. Il est la gloire de Dieu. Question ? Pourquoi cette différence ? Pourquoi la femme a besoin d'en rajouter à sa tête, tandis que l'homme n'a pas besoin d'en rajouter ? Voyez ? Et on en vient à la raison. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête un signe de son autorité. Alors, encore petit rappel, selon les éléments du texte, pour les femmes, le voile, hein, ou ce qu'on a sur la tête, c'est un élément positif, un honneur, selon Paul, hein, je le rappelle. Face aux anges, la femme doit donc manifester sa gloire, son honneur, en se parant d'un voile. Face aux anges, l'homme, au contraire, ne doit pas se parer d'un voile pour manifester sa gloire, son honneur. Là encore, on se dit, mais pourquoi la femme, elle, a besoin d'en jeter face aux anges, hein, de rajouter quelque chose pour manifester son honneur, sa gloire? Pourquoi sa tête doit-elle se parer? Alors que l'homme, ça n'est pas nécessaire. La clé. Il n'y a pas un tambour, roulement de tambour. La clé, l'apôtre Paul, en fait, nous l'a donnée. Voilà. Nous l'a donnée au début. Donc on ne voit pas très bien la distinction des couleurs. C'est les deux premières lignes. Il nous avait dit, « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est la tête de tout homme, que l'homme est la tête de la femme et que Dieu est la tête de Christ. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que la femme porte l'honneur de l'homme. Elle doit l'affirmer face aux anges. L'homme, lui, porte l'honneur de Christ. Est-ce qu'il a besoin de l'affirmer devant les anges? Non. C'est évident que Christ est au-dessus des anges. Donc, il n'a pas besoin d'en rajouter. La femme, elle, elle porte l'honneur de l'homme. Est-ce que c'est évident que l'homme est au-dessus des anges? Non. Donc, elle doit marquer son honneur, sa gloire, son droit face aux anges. Le couvre-chef de la femme manifeste donc que la femme, comme l'homme, a l'autorité spirituelle pour prier ou prophétiser dans le culte, car elle a été tirée de l'homme. L'apôtre Paul, d'ailleurs, au chapitre 6, avait rappelé aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ?» En réalité, face aux anges, l'homme et la femme sont dans une position, on pourrait dire, de supériorité. Et la femme, en portant l'honneur de l'homme, le manifeste devant les anges. Elle manifeste son honneur. Voilà pourquoi elle a besoin de mettre un voile, c'est sa marque d'autorité face aux anges. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? L'homme, l'apôtre Paul dit, sa tête symbolise le Christ, et Christ face aux anges, il n'a pas besoin qu'on en rajoute. C'est clair, il est au-dessus des anges. Mais l'homme, ça n'est pas évident. Et donc c'est un rappel, le voile de la femme pour l'apôtre Paul, dans ce contexte-là, c'est une affirmation de l'autorité de sa tête, celui qui est symbolisé par sa tête, l'homme, dont elle, avec lequel elle ne fait qu'un, face aux anges. On comprend mieux les louanges de l'apôtre Paul au début du passage. Il ne cherche pas à corriger une mauvaise pratique, mais il cherche, comme il le dit, je veux cependant que vous sachiez, il cherche à donner un nouveau sens à cette pratique du voile. Cette pratique culturelle qui existait, l'apôtre Paul lui donne un nouveau sens. Les femmes ne doivent plus voir le voile traditionnel qu'elles portent simplement comme une question d'essence, voire de soumission. Elles doivent le voir comme la manifestation face aux anges de l'autorité de l'humanité face aux anges. En gardant au terme képhalé son sens premier de tête et en acceptant que l'apôtre Paul fait jouer diverses utilisations du mot tête de manière allégorique et de manière réelle, nous avons été, je crois, en mesure de proposer une interprétation globale du passage qui nous semble cohérente avec ses principales difficultés. En laissant de côté les notions d'autorité ou de chef, en réalité, le texte se livre dans ce qu'il a de spécifique comme enseignement particulier que l'apôtre Paul veut communiquer à la communauté de Corinthe. L'enseignement de Paul, ici, ne semble pas donc être en tension avec la pratique qu'il a eue d'encourager le ministère des femmes. Dans ses textes, Paul souligne, dans des perspectives différentes, les bouleversements qui surgissent avec la nouvelle humanité des rachetés. L'unité profonde entre l'homme et la femme, leur interdépendance, sert à rappeler les privilèges qui sont désormais les leurs. En Christ, ils reçoivent l'un et l'autre la promesse d'une gloire supérieure à celle des anges. À la femme est confié le privilège de manifester l'étendue de cette gloire. La gloire de l'humanité rachetée dépassera un jour celle des anges. Ces trois textes difficiles, j'ai été d'essayer d'aller vite à travers cela et de souligner là encore ce qui n'est que des pistes de lecture, me semblent bien loin de donner un tableau où la parole, la participation au ministère d'exhortation, d'enseignement, voire même au ministère peut-être pastoral. Ces trois passages ne me semblent pas du tout empêcher cette possibilité-là, mais au contraire, remis dans leur contexte, ça ne me semble pas remettre en question le mouvement de la rédemption qui est inauguré en Jésus, que l'Église primitive a développé et qui, très souvent dans l'histoire et même dans l'histoire notre histoire évangélique, notre petite histoire évangélique, a pointé régulièrement à la surface où le Seigneur appelle tous ses enfants parce qu'il leur a donné le même esprit à proclamer ses louanges, à proclamer le salut qui est en Jésus-Christ, à s'édifier les uns les autres, à s'encourager les uns les autres et à vivre les prémices d'une humanité renouvelée et réconciliée. Il y aurait bien sûr encore beaucoup à dire, mais je vais m'arrêter là parce que j'ai largement épuisé mon temps. Mais peut-être si on a encore juste quelques minutes de questions, et puis on pourra après faire une pause parce que voilà, le temps file. En tout cas, merci de votre écoute. J'espère que voilà, ça a pu être quand même suffisamment clair. C'est sûr. Oui. Tout à fait. Ouais. Bon, je pense que là, il s'agit d'une remarque culturelle. Paul, dans sa culture, effectivement, c'était une pratique où les hommes n'avaient pas les cheveux longs. Sinon, c'était considéré comme quelque chose d'efféminé. Je pense que même dans notre culture, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait souvent cette connotation-là. Maintenant, je ne sais pas, chez les Vikings ou chez d'autres, ça n'était pas le cas. Donc là, je crois qu'il y a une dimension vraiment culturelle. Et qu'il ne faut pas se laisser tromper par « la nature ne vous enseigne-t-elle pas ?» ce qui est mis sous le terme de nature, là, en fait, nous on dirait le sens commun, ou voilà. Donc, là, je crois que c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut lire cette phrase. Si Paul avait été en Afrique, il n'aurait pas dit voilà, c'est une honte pour une femme d'avoir des cheveux courts. Parce que dans bien des. Voilà. Mais c'est là où il faut replacer aussi dans le contexte culturel. Non, mais il peut y avoir. Il peut y avoir. Socialement, ça peut être un signe de rébellion. C'est-à-dire que je pense que les premières personnes qui, pour prendre notre contexte à nous, de manière notre contexte court, hein, voilà, c'est, lorsque dans les années 60 ou 70, on commençait pour des hommes à se laisser pousser les cheveux, ou les premières femmes dans les années 30 qui se coupaient les cheveux, il y avait un geste militant. Donc là, il y avait quand même un sens qui allait au-delà de simplement une mode qui aujourd'hui, quand une femme se coupe les cheveux, enfin, mesdames, je pense que vous ne voulez transmettre aucun message. Voilà. Et voilà. Voilà. Mais dans certains contextes culturels, il y a quand même un message. Ça a été la même chose d'ailleurs pour les pantalons, voilà, hein, au XVIIIe siècle, c'était les hommes qui, quand les premiers hommes ont mis des pantalons, c'était, voilà. Et donc, voilà, et plus tard, quand ce sont les femmes qui ont commencé à mettre des pantalons, c'était aussi un problème. Donc, voilà, ça ne peut pas être des choses qui sont absolues, les sociétés changent, et...
Sur la question du ministère des Mineurs, le ministère de l'Instruction, il y a un fonds
Oui, c'était vrai jusqu'à récemment, mais en fait, on pourrait séparer, vous savez, la traduction évangélique, globalement, les deux principaux canaux, on va dire, c'est le canal, on va dire, de la tradition réformée, hein, y compris dans sa version baptiste, les baptistes calvinistes, voilà, ça c'est une ligne. Et puis la tradition qu'on appelle arménienne, wesleyenne, de renouveau, de sainteté. Donc ça, on met là-dedans effectivement les églises méthodistes, les pentecôtistes, etc. Ce sont quand même deux traditions assez différentes. Et la tradition méthodiste, mouvement de sainteté, pentecôtiste, charismatique, globalement, a toujours été relativement ouverte par rapport au ministère féminin. L'aile réformée, y compris dans sa version baptiste, calviniste, etc., a toujours été très réticente. Et aujourd'hui, on assiste à ce qu'on appelle les nouveaux ou le néo-calvinisme, un renouveau du calvinisme qui est très fort aux États-Unis et qui arrive jusqu'à ici. Vous avez peut-être entendu parler d'Évangile 21, hein, les séminaires qui se font à l'IBG, à travers une organisation qui s'appelle Gospel Coalition, avec des personnes donc, comme John Piper, Carson, Tim Keller, de Jung, voilà, il y a une panoplie de ces noms-là. Et en fait, ce renouveau calviniste s'accompagne aussi d'un raidissement par rapport à la question du ministère féminin. La Gospel Coalition met au cœur de son travail de redéfinir l'Évangile, et dans cette redéfinition de l'Évangile, la distinction des rôles homme-femme est inclus. C'est-à-dire que quand on veut définir l'Évangile, il faut aussi parler de... Nous, on ne mettrait pas bon, l'Évangile... quelle que soit l'opinion qu'on peut avoir là-dessus, si on disait, bon, nous, ce qu'on veut, c'est se centrer sur l'Évangile et accepter qu'on puisse peut-être avoir sur des points secondaires des divergences. Eh bien, eux, ils mettent ça, si on lit la Confession de foi de la Gospel Coalition, vous trouverez cette question de l'homme et la femme qui doivent dans leur rôle respectif. Donc ça, c'est au cœur de ce mouvement. Et ce mouvement est très très fort. Il a été précédé avec les Promise Keepers, un mouvement d'hommes dans les années 90, mais ça a été un peu en déclin. Et depuis une quinzaine d'années, c'est vraiment ce qu'on appelle le néo-calvinisme, ou les jeunes calvinistes, qui sont très influents, et en fait ils sont même influents bien au-delà de leur cercle. Il n'y a pas très longtemps, les assemblées de Dieu américains ont dû pondre un texte pour les assemblées de Dieu qui sont loin du calvinisme, voilà, c'est plutôt la tradition arménienne, elles n'ont rien à voir avec un Piper ou etc. Mais en fait, même les assemblées de Dieu aux États-Unis, ils souffrent un peu de cette résurgence en fait de ce mouvement. Beaucoup d'universités aux États-Unis, dans les milieux Southern Baptist ou d'autres encore, tous les profs qui n'étaient pas calvinistes sont fait jeter. Voilà, donc il y a une vraie résurgence qui s'accompagne avec un discours très très fort. John Piper est quand même un personnage qui, bon, il a une certaine aura. Ben, vous lisez un certain nombre de ses interviews. Voilà. Donc c'est depuis les années, le début des années 80, les débats sont assez vifs. Il y a eu un premier livre qui a été écrit par John Piper et Wayne Grudem. Il faut savoir que voilà, le deuxième personnage influent, c'est Wayne Grudem. Son livre de théologie systématique qui a été traduit en français, c'est le manuel le plus utilisé dans le monde anglo-saxon. Et il va devenir aussi le manuel le plus utilisé en français, parce qu'on n'en a pas 50. Et bon, voilà, il est globalement, c'est assez bien. Mais, voilà. Mais c'est très présent dans dans sa théologie systématique. Donc tous les étudiants, ils boivent de ça. Voilà. Donc voilà, je veux dire, C'est vraiment très présent. Vous parlez avec les jeunes étudiants qui sortent d'un certain institut biblique, vous aurez quasiment 10 sur 10 le discours de Wayne Codham. C'est un bon résumé. La parole de Dieu dit que nous, on va juger les anges, mais elle ne dit pas qu'on va se juger les uns les autres, donc je me garderai. Mais oui, moi, je trouve ça assez grave, oui. Oui, comme je vous dis, il y a un certain nombre même d'unions d'églises, alors pour l'instant c'est plutôt outre-Atlantique, où beaucoup d'églises qui avaient des femmes pasteurs.